Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Nouveau jour, nouvelle thématique, nouvelle région de la Côte d'Ivoire dans ce numéro de Panorama des régions. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, deux régions seront à l'honneur, la région de Lifou, au centre de la Côte d'Ivoire, où nous serons en quête d'informations sur la situation des grossesses en cours de scolarité pendant l'année scolaire écoulée. Nous aurons le point au niveau local. Ensuite, dans la deuxième partie de cette émission, dans la droite ligne de notre leitmotiv de promotion de la paix et du vivre ensemble, nous poserons nos valises dans le Bounkani, région du nord-est du pays, précisément à Bouna. Il s'agira pour nous de revenir sur la tournée de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels en cette période préélectorale pour promouvoir la responsabilité citoyenne de tout un chacun pour une présidentielle apaisée.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.
Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a récemment publié un rapport sur la situation des grossesses en milieu scolaire. Il indique une hausse de 8,31% des cas entre septembre 2024 et juin 2025, avec un total de 4884 cas recensés contre 4140 l'année précédente. À un autre niveau, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a tenu à apporter une rectification sur les chiffres qu'il considère plutôt en baisse. Fait soutenu par une présence de ces démembrements sur le terrain. À cet effet, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 2 juillet dernier.
Je ne veux pas remettre en cause le travail de la Commission nationale des droits de l'homme, mais ces chiffres sont différents de ceux du ministère de l'Éducation qui note plutôt une baisse. Il serait important que cette structure se rapproche du ministère de l'Éducation nationale, qui est en contact permanent avec les élèves, qui a un démembrement de son administration sur l'ensemble du territoire et qui a la réalité des chiffres. Donc je ne remets pas en doute le travail de la CNDH, qui a certainement ses sources, mais pour ce qui est du ministère de l'Éducation nationale, qui a eu à informer le gouvernement en conseil de gouvernement, c'est plutôt le contraire, on a une baisse. C'est un sujet qui reste préoccupant, c'est vrai. Le ministère en a fait son cheval de bataille et du compte-rendu verbal qui a été fait en conseil de gouvernement, eh bien, ces chiffres sont plutôt en baisse et on devrait s'en féliciter, mais continuer à travailler pour tendre vers l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire.
Vous écoutiez Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement.
Radio de la paix. Mieux comprendre les enjeux.
À la suite donc de cette précision, nous sommes en ligne avec Constant Kéhi, responsable de la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire d'Emos de Daokro, région de Lifou. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Mel.
En quoi consiste concrètement le rôle de cette structure?
Tout d'abord, j'aimerais dire bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio de la Paix. Avant de rebondir sur votre sollicitude de ce matin, je tenais à dire grand merci à la direction de la radio de la paix, ainsi qu'à l'équipe organisationnelle de cette émission. Et effectivement, qui nous donne l'opportunité de faire une remobilisation de tous les acteurs communautaires dans la lutte contre les grossesses contractées en milieu scolaire. Effectivement, notre coordination au niveau régional a pour mission véritablement de mettre des stratégies sur pied pour pouvoir venir au secours aux filles vulnérables dans la généralité. Maintenant, spécifiquement, dans le cas de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, nous sommes tenus à réaliser des stratégies sur le terrain pour pouvoir d'abord comprendre le phénomène qui est le grossesse en milieu scolaire et puis trouver des solutions que nous allons soumettre à notre direction pour validation jusqu'à ce que ça remonte à la direction centrale.
Avec vous, M. Kéhi, vous venez de le dire, nous touchons la sensible question des grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui prend de l'ampleur ou qui prendrait de l'ampleur selon les régions en Côte d'Ivoire. Dernièrement, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a publié un rapport. Il y a aussi le ministère de tutelle, au travers du Conseil des ministres, qui a apporté une précision. Selon vous, quel est l'état des lieux, des chiffres des grossesses en milieu scolaire?
Il faut savoir que la stratégie autour de lutter contre les grossesses en milieu scolaire est une stratégie régionale et départementale, parce que chaque zone a sa réalité. Donc vous allez voir que les différents chiffres sont travaillés dans chaque structure pour pouvoir véritablement avoir des chiffres exacts. D'abord, il faut savoir que cette lutte a commencé depuis l'année scolaire 2012-2013, lancée par Madame le ministre Kandia Camara, d'alors, pour véritablement aider surtout la population scolaire au niveau de nos jeunes filles vulnérables, véritablement à atteindre le niveau vraiment adéquat par rapport à leur capacité. Donc de là jusqu'à cette année, les retards au niveau de notre direction est satisfaisant. Puisque en ce qui concerne la région de l'IFU, nous qui étions dans la première année scolaire que je viens de dire tantôt à 450, aujourd'hui nous nous retrouvons à moins de 100. C'est ce que nous avons constaté pour cette année.
Donc l'état des lieux chez vous, c'est en baisse carrément.
En baisse. Mmh. Ça, nous confirmons. Parce que nous avons une stratégie, comme je l'ai dit, une stratégie de regroupement des données au niveau de chaque département dans la région. Comprendre d'abord le phénomène, voir les causes et puis lutter contre ces causes-là. Voilà la stratégie que nous menons. Mmh. Et cette stratégie nous permet d'avoir, dès déjà à la rentrée scolaire, des chiffres qui évoluent jusqu'à ce que la fin d'année arrive. Et les filles sont prises en charge individuellement. Donc vous comprenez que nos chiffres, j'allais dire, sont vraiment concis et précis.
Vous avez évoqué votre stratégie qui est d'abord de prendre conscience ou connaissance du phénomène, oui. Découvrir les causes et ensuite apporter des solutions. Pour ce qui est des causes, quels sont les facteurs qui conduisent aux grossesses en milieu scolaire? Qui sont les auteurs?
C'est une très belle question. Déjà, il faut comprendre que, j'ai dit dans mon propos, que chaque département au niveau de notre région a ses réalités. Vous allez voir que les causes que nous avons observées au niveau de Daoukro, du département de Daoukro, ne sont pas, je les parais, que celles qui sont au niveau des Wélé, Mbayakro, Pikro, et Trokre et autres. Donc déjà, les premières causes que nous observons, c'est le regard diminué des parents. Je ne pourrais pas dire l'abandon, parce que quand vous dites abandonner, c'est un mot un peu fort pour décrire un peu le comportement des parents vis-à-vis des enfants. Mais aujourd'hui, les parents ne s'impliquent pas comme il se doit par rapport au comportement, par rapport au résultat même de leurs enfants. Donc déjà, les enfants sont, j'allais dire, en guillemets, abandonnés à leur sort, et cela crée assez de soucis. Il y a aussi le problème de l'éloignement des établissements que aujourd'hui l'État attend de mettre en une stratégie des écoles de proximité pour pouvoir vraiment éradiquer. La difficulté, autre difficulté aussi, c'est pratiquement, vous allez voir, nous sommes dans des périodes un peu difficiles par rapport à avoir la nourriture. Quand vous prenez à Wélé, les élèves ont une grosse difficulté à avoir de l'alimentation correcte. Les 3 repas par jour sont difficiles d'accès. Donc, les enfants, compte tenu de cette difficulté, même s'ils sont avec les parents, puisque les parents aussi, le champ ne produit pas, donc vous voyez toutes ces conséquences-là.
Pour ce qui est des auteurs, professeurs, enseignants ou élèves entre eux-mêmes?
Le pourcentage le plus élevé, c'est les élèves entre eux-mêmes. Et puis après, viennent les hommes de petits métiers. Nous avons fait un travail excellent avec nos différents directeurs régionaux qui sont passés. Aujourd'hui, nous sommes à 0% de fonctionnaires, que ce soit des enseignants, des fonctionnaires, d'autres corps de métier, mais qui sont fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes à 0%. Parce que l'information, la sensibilisation est passée et tout le monde a compris qu'il fallait véritablement aider nos filles à aller au maximum de leur capacité. Voir finir le premier cycle et puis engager le second cycle pour que véritablement elles puissent avoir tous les rudiments pour être autonome.
Au niveau de votre direction, quelles sont les actions que vous entreprenez pour sensibiliser ou prévenir la survenance des grossesses en milieu scolaire?
Notre stratégie nous a permis d'avoir des données, et ces données, grâce au coaching de notre direction centrale, qui est la DEMOS, nous avons pu avoir des partenaires qui nous ont aidés à mettre des projets sur pied. Tel que dans les premières années, nous avons eu le projet Canada qui nous a permis vraiment d'aider les filles les plus vulnérables à s'occuper d'être dans le premier élément, c'est un accompagnement au niveau alimentaire et d'autres activités qui ont suivi, que ça soit même des sensibilisations sur la menstruation, même des kits de menstruation qui ont été mis à leur disposition, des kits scolaires, tout et tout. Donc, cela a permis un peu de soulager certaines difficultés. Après, nous avons eu encore d'autres projets qu'on a appelé projet Suède, c'est un projet sous-régional qui nous a permis de faire une sensibilisation, j'allais dire corps à corps, où il s'agissait véritablement d'aller vers les filles, de faire des petits groupes, de faire des échanges de les appuyer, de les écouter et de trouver individuellement celles qui posent des soucis de vulnérabilité. Donc, il y a ces projets, il y a d'autres partenaires, il y a des projets que nous-mêmes aussi au niveau régional que nous avons, des projets où nous avons un médecin, le médecin du Crémos qui nous appuie par rapport aux sensibilisations, par rapport aux conférences, par rapport aux échanges de groupes. Donc, toute cette stratégie a permis véritablement aujourd'hui, nous qui étions à 450, aujourd'hui nous sommes à moins de 100 grossesses constatées.
Prenons le cas de la jeune fille qui contracte une grossesse en milieu scolaire. Quelle prise en charge est prévue et est-ce qu'il y a possibilité de poursuivre la scolarité?
Effectivement, tout est mis en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour que cette fille ne soit pas abandonnée. La première chose, c'est que elle puisse déclarer elle-même lorsque elle constate que bon, il y a une anomalie au niveau du corps, qu'elle aille à l'hôpital. Elle a l'opportunité de fréquenter des structures. Il y a le SSU SAGE, il y a le CREMOS aussi qui a son hôpital qui peut la prendre en charge. Et de là, nous on nous fait appel en tant que spécialiste pour que cette fille puisse déjà avoir des documents administratifs qui va constater la grossesse, qui va la sécuriser au niveau de l'école. Et lorsque le médecin voit l'opportunité qu'elle est continue, alors on lui donne un document qui va lui permettre gratuitement de poursuivre ses études. Et lorsque aussi nous constatons que véritablement la grossesse est avancée ou elle ne peut plus continuer, nous prenons aussi des dispositions pour qu'elle puisse arrêter et rattraper l'année scolaire plus tard. Donc voilà, et ça c'est la partie administrative, mais la partie véritablement, j'allais dire sociale, nous, à notre structure, rend visite à la jeune fille, prend des rendez-vous pour elle, suit la grossesse avec elle, voit est-ce que tout est mis en place pour qu'elle puisse accoucher dans les bonnes conditions.
Parlons, allez-y.
Voilà, et lorsque c'est fait, voilà, nous mettons en place aussi au niveau du centre social. Donc, qui est notre partenaire, pour qu'eux puissent faire la relève.
Dans l'aspect social, on peut aussi toucher peut-être l'aspect psychologique. Cette jeune fille, après avoir contracté la grossesse, comment est-elle perçue par la société?
Bon, j'allais dire, de nos jours, c'est bon. C'est bon dans le sens où, véritablement, la sensibilisation que nous avons menée est passée. Elle n'est plus rejetée comme avant où, automatiquement, lorsqu'on constate une grossesse, elle est exclue. Aujourd'hui, tout est mis en place pour que, même au niveau de l'école, les éducateurs, le corps administratif, au niveau de l'école, prend en charge la jeune fille, la motive, lui donne même tout le nécessaire pour qu'elle puisse continuer sa scolarité. Même avec ses pairs, l'information passe dans nos clubs santé qui véritablement montre l'opportunité de leur parler de ce phénomène, de lutter avec nous contre ce phénomène, mais aussi d'aider les camarades qui sont dans cet état de grossesse, notamment à aller de l'avant et à donner aussi des conseils, des choses plus tard aux autres.
Aux décideurs politiques, aux autorités de ce pays, ou on va dire local, sous-préfectoral ou préfectoral, quelles recommandations faites-vous pour mieux gérer cette situation?
Au niveau de l'IFU, nous sommes satisfaits de l'implication de tous nos responsables administratifs, que ce soit déjà le corps préfectoral, tous les élus et cadres sont impliqués. C'est pour ça que vous avez, c'est vrai, nous ne sommes pas trop satisfaits de ce chiffre, mais au moins, vous voyez, au niveau de l'IFU, les grossesses sont le nombre est en baisse. Donc déjà, c'est pour demander à toutes nos autorités, que ce soit administratives coutumières, communautaires et nos partenaires, de toujours de rester mobilisés pour que nous arrivions à zéro grossesse l'année prochaine, s'il faut.
Et un message aux parents et responsables d'établissement?
Aux parents, c'est véritablement de s'impliquer. De s'impliquer puisque nos enfants sont l'avenir de notre région. C'est grâce à nos enfants que notre région pourra être très dynamique et répondre aux exigences de notre pays. Maintenant, à nos responsables des structures communales scolaires, c'est toujours de nous aider à lutter encore plus d'être à la disposition véritablement des enfants pour que l'information puisse nous parvenir tôt, pour que la prise en charge puisse être faite.
Et aux premiers acteurs, c'est-à-dire les premiers concernés, les élèves eux-mêmes.
Les élèves, eux, c'est leur dit toujours d'être vigilants, c'est les vacances, d'être vigilants dans leur comportement, dans la prise de risque. Il faut réfléchir rapidement parce que, vous savez, nos élèves, c'est pas sur les conséquences qu'ils regardent, mais lorsque l'action doit se faire, ils se disent, je le fais et puis après on verra. Donc c'est véritablement de parler beaucoup avec leurs parents, avec leurs confidents, de prendre des bonnes décisions pendant les vacances pour que l'année prochaine, véritablement, nos filles nous reviennent en bonne santé et qu'on ait vraiment un chiffre zéro dans notre région.
Monsieur Kei Constant, merci.
Merci encore, Monsieur Mel.
Et je rappelle que vous étiez dans Panorama des régions et vous êtes le responsable de la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire d'Emos à Daoukro, région de Lifou.
Tout à fait.
Merci et excellente journée à vous.
Merci.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
À présent, nous partons à Bouna dans le nord-est de la Côte d'Ivoire pour une étape de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble pour des élections apaisées en octobre prochain. Une initiative de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Jérôme Kwasi Krou, notre correspondant sur place, a suivi cette étape et nous fait le point dans un reportage dont voici un extrait.
Le contexte justificatif de la tournée nationale d'échange et d'écoute à travers les régions du pays en lien avec le passé récent sur les échauffourées des élections présidentielles précédentes pour rappel de mémoire avec Nana Nguessan-Bébé de la région du Nzi pour la prochaine échéance de 2025.
C'est une échéance importante et les expériences des processus électoraux précédents nous enseignent que les tensions politiques exacerbées et autres climats et autres clivages, sociaux peuvent dégénérer en situations conflictuelles de nature à fragiliser la cohésion sociale et le climat de méfiance et de suspicion qui prévaut actuellement dans notre pays représente un risque considérable menaçant de raviver les divisions et d'alimenter à nouveau les troubles qui ont marqué les scrutins passés. Aussi importe-t-il pour la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de jouer pleinement son rôle, celui de prévenir les conflits entre les communautés et œuvrer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale afin d'amener les populations à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en adoptant des comportements et des discours pacifiques.
Radio de la Paix.
Ce reportage de Jérôme Kwasi Krou est à retrouver sur notre site internet www.radiodelapaix.ci.
Radio de la Paix, la voix de la diversité.
Bonjour Adama Kunga.
Bonjour Monsieur Mel.
Vous êtes le chef de service communication du royaume de Bouna et c'est avec vous que nous allons aborder la tournée des rois et chefs traditionnels dans le pays, étape de Bouna. Quel est le lien entre la chefferie de Bouna et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels?
Je vous remercie déjà de l'honneur que vous me faites en m'interviewant sur cette radio, donc la radio de la paix. Il faut dire que le lien entre la chefferie de Bouna et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est un lien d'étroite collaboration, en ce sens que la chefferie de Bouna, en tant que structure traditionnelle, appartient à la Chambre des rois et chefs traditionnels. Et d'ailleurs, le roi de Bouna, le quatrième vice-président, donc le roi Nguebouma, est le quatrième vice-président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Donc, c'est dire que la chefferie de Bouna fait partie intégrante de cette chambre-là. Donc, elle est membre de cette chambre.
Et quelles sont les raisons principales qui ont motivé la tournée de sensibilisation?
Ben, il faut dire que les raisons, elles sont multiples. Entre autres, donc renforcer la cohésion sociale et prévenir la violence, surtout en cette année électorale. Sensibiliser la population à offrir un espace d'écoute, offrir un espace d'écoute aux populations, j'allais dire, et assurer des élections présidentielles apaisées et calmes, donc sans trouble.
Voici autant de raisons qui ont motivé cette tournée de la Chambre des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire.
Et dans le nord-est du pays, région de Bounkatni, précisément Bouna, comment a été planifiée cette étape?
Bon, il faut dire que l'étape de Bouna fait partie d'un ensemble d'étapes à travers tout le pays. Et donc l'étape de Bouna a été planifiée en lien avec Sa Majesté le Roi Ngaïglima, qui est membre de la Chambre des Rois. Et donc, à travers lui, les membres de la Chambre régionale qui ont été invités à faire en sorte que l'activité se déroule dans de très bonnes conditions, donc dans le royaume, et faire en sorte que la cible qui est intéressée par la Chambre des Rois puisse être atteinte. Donc voici comment, de concert, en lien avec le roi, la Chambre régionale, cette activité a été planifiée.
Et quels sont les messages clés qui ont été portés lors de cette tournée à l'étape de Bouna?
Oh bon, le message clé, il s'agit essentiellement d'un appel au vivre ensemble, à la préservation de la cohésion et de la stabilité dans le pays, la promotion de la non-violence, mais encore mieux le recours au dialogue en toutes circonstances. Donc voici autant de messages qui ont été diffusés à l'endroit des populations.
Quand était-ce et combien de temps cela a duré?
Un peu plus d'une heure et demie, disons moins de deux heures de temps.
L'étape de Bouna s'est déroulée quand?
S'est déroulée le 19 mai 2025 à la salle de réunion du Palais Royal de Bouna.
En termes d'activité, c'était seulement une conférence pour passer un message ou il y a eu d'autres activités qui ont meublé ce moment?
C'était essentiellement la rencontre qui a consisté à donner un message. Donc le message de Sa Majesté Nana Amontanoué, donc président de la Chambre. Et après ce message, il y a eu des interventions. Donc les intervenants pour saluer ce message empreint de paix et de tolérance qu'on attend au sein de la population. Donc les intervenants ont salué ce message, mais il faut dire que bien avant ça également, il y a eu l'intervention du maire de la commune de Bouna qui a ouvert la cérémonie. Et comme nous sommes dans un cadre traditionnel, une libation qui a été faite par l'autorité traditionnelle et donc permettre à ce que la rencontre se déroule dans de très bonnes conditions.
Les populations locales, comment ont-elles accueilli cette initiative?
Ah ben, il faut dire que les populations ont salué cette tournée, donc l'étape, cette activité dans le royaume, pour d'une part, j'allais dire, les populations ont remercié le président de la Chambre d'avoir bien voulu d'avoir pu déplacer et faire le déplacement de Bouna, parce que ça leur a permis de connaître physiquement le président de la Chambre. Donc pour eux, ça crée de la proximité entre les populations et la structure qui gère la chefferie traditionnelle. Mais également, les populations ont salué le message qui a été donné. Le message, il est clair. C'est un appel pressant à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions préserver la paix dans le pays et plus singulièrement dans notre région, qui d'ailleurs est adossée à une double frontière, notamment le Ghana et le Burkina Faso. Et nous savons la situation que traverse le pays frère du Burkina Faso. Et pour nous, tant qu'il y a la paix dans la région du Bounkani, cela pourrait être un bouclier solide pour empêcher toute forme d'insécurité dans la région.
Tous ces messages de paix, ils ont été véhiculés, mais concrètement, quels sont les engagements qui sont pris au niveau local pour vraiment faire de cela une réalité?
L'engagement qui a été pris, c'est d'accentuer les séances de sensibilisation. Ils sont déjà menés par le roi, qui pratiquement chaque trimestre rencontre les chefs traditionnels, les guides religieux, les autorités, les chefs de communauté. Donc il les rencontre au Palais Royal pour qu'ensemble des actions soient menées afin de préserver la cohésion dans la région. Donc c'est déjà un travail qui est fait par Sa Majesté Et après le passage de la Chambre, la chefferie traditionnelle s'est engagée à accentuer ce travail de sensibilisation-là. Faire en sorte que le Bunkani, la région du Bunkani, soit un modèle en termes de cohésion, en termes de vivre ensemble.
Cette campagne s'inscrit dans une posture, on va dire, préélectorale. Vous l'avez dit à l'entame de l'entretien que c'est en lien, sinon en prélude à la présidentielle 2025, aux possibles candidats qui sont engagés dans la course à la présidentielle. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces derniers-là?
Nous attendons des candidats et groupements politiques qui soient des vecteurs de paix, qu'ils fassent des paroles de paix, qu'ils diffusent des paroles de paix, qu'il fasse en sorte que la préservation de la cohésion, de la stabilité du pays soit l'axe central de leur campagne. Nous n'avons qu'un seul pays et nous avons le devoir de léguer ce pays-là en parfaite santé aux générations futures. Et donc, tous autant que nous sommes, nous devons faire en sorte que le pays puisse connaître la stabilité qui, pour nous, est un gage de développement.
Enfin, Adama Konga, nous arrivons au terme de notre entretien. Quel message souhaiteriez-vous adresser à la jeunesse de Bouna et de la Côte d'Ivoire en général à quelques mois de la présidentielle?
À l'endroit de la jeunesse de la Côte d'Ivoire en général et en particulier celle de Bouna, nous les invitons à rejeter toute forme de violence, à faire en sorte que toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique, ne puisse pas être démise dans nos actions. Être des ambassadeurs de paix et se désolidariser de toute initiative qui viendrait à porter atteinte à cette paix qui nous est chère. Donc voici le message que je pourrais adresser à la jeunesse. Donc, être des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs de la cohésion sociale qui permettra à cette même jeunesse-là d'être épanouie dans le pays.
Adama Konga, merci beaucoup d'être passé dans Panorama des régions.
Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.
Et je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes le chef du service communication du royaume de Bouna.
Tout à fait.
Passez une très belle journée.
Merci beaucoup. Excellente journée à vous également.
Merci.
Radio de la paix. Pour vous. Et avec vous.
Nous voici au terme de ce temps d'antenne. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, auditeurs et auditrices de Radio de la paix. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle région pour de nouveaux sujets. À bientôt.
Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.